le foreverisme. C'est une sorte d'anglicisme néologique, un peu. Je pense que c'est assez facile, peut-être même un peu agréable de se complaire dans la nostalgie, ouais, complètement.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir doublé d'un honneur de vous accueillir dans le 522e numéro de Zoom Zoom Zen, ce qui signifie que pour la 522e fois, notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière a dû trouver un mot à peu près dans l'air du temps afin qu'on zoome dessus. L'idée l'obsède chaque soir quand il se couche après avoir déposé ses dents dans le verre sur la table de chevet. Bon sang, mais quel mot en isme je vais pouvoir trouver pour alimenter cette foutue émission? Il ouvre alors son calepin, car oui, il travaille encore sur calepin, et il examine la liste. Wokisme, bon ça on l'a fait 17 fois. Spatio-féminisme, je sais plus ce que c'est mais on l'a fait aussi, pense-t-il en déployant sa jambe de l'autre côté du lit, obligeant son épouse à aller dormir sur le canapé. Paracolonialisme, c'est quoi cette connerie? On a fait ça nous? Eh oui, plus ça va, plus les années passent et plus les mots en isme qui font le charme de Zoom Zoom Zen et noté dans Télérama sont difficiles à trouver, mais rassurez-vous chers auditeurs, chères auditrices, Cyril ne renoncera jamais, même s'il le paye de cruelles insomnies, il n'arrêtera jamais de chercher des mots en isme. Quoi qu'il arrive, il continuera de creuser. Creuse, bébé, creuse, se dit-il toujours, ou plutôt depuis qu'il est bilingue.
Drill, baby, drill.
Un acharnement payant, puisque je suis heureux de vous l'annoncer, Cyril a trouvé un nouveau mot en isme. Aujourd'hui, sur cette tendance à la nostalgie qui a envahi nos sociétés, de prequel à reboot, de reprise en remake, on semble de plus en plus vivre dans le passé. Qu'est-ce que tout ça dit de nous, de notre époque? Ce matin, en appliquant son stéradent, Cyril pouvait avoir le sourire, il avait découvert le mot « foreverisme ». Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Emmanuel Fantin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Emmanuel, vous êtes chercheuse et maîtresse de conférences au CELSA, l'école de journalisme de Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste en sciences de l'information et de la communication. Vous vous intéressez particulièrement à la question de la nostalgie. Vous avez d'ailleurs co-dirigé l'ouvrage Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie, paru il y a quelques années aux presses universitaires du Septentrion. Vous allez donc nous expliquer ce qu'est le foreverisme. Juste le temps de vous présenter deux journalistes parfaitement ancrés dans le présent. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Ça dépend pour qui, bonjour. Bonjour.
Ça dépend pour qui, oui, effectivement, bonjour.
Ça se renvoie déjà la balle d'entrée de jeu.
Moi, je parlais de Quentin.
Et moi, je parlais de Manon.
Vous vous accusez de ringardisme l'un l'autre.
Oui, oui.
Très bien. On développera ça dans l'émission. À vos côtés, Emmanuel, n'ayez pas peur, je sais que c'est impressionnant, une telle masse de muscles. Vous l'avez certainement vu en une de Bodybuilding Magazine. Il faut dire que depuis l'achat le week-end dernier, Walter de 3 kilos, son corps a changé.
Ah, c'est
mais
vrai.
Manon, après le culturisme.
C'est déjà super lourd pour moi.
C'est vrai, oui, c'est déjà bien. Après le culturisme, le journalisme reste quand même votre deuxième passion. C'est pourquoi chaque après-midi, vous nous dévoilez...
Ça fait rire Cyril, vraiment.
Oui, il vous regarde bizarrement aujourd'hui. Hein. Vous essayez de vous traquer le muscle.
Je pense qu'il m'imagine
non,
avec des haltères.
C'est l'haltère de 3 kilos, effectivement.
Chaque après-midi, ouais, on zoome avec vous sur l'autre personne à suivre.
Un acteur américain iconique que je confonds tout le temps avec Arnold Schwarzenegger, la faute au gros muscle et à la gueule cassée. En tout cas, celui dont je vais vous parler, pardon, a bien surfé sur la vague reboot, remake et tutti quanti avec deux de ses personnages.
Face à vous, Emmanuel, maintenant que Manon ressemble à Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare, il paraît encore plus petit. Pourtant, il n'est pas petit. Il a une verticalité différente.
C'est pas pareil.
Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour.
Un anglicisme, un de plus pour nos passants qui restent avant tout des nostalgiques. Je suis allé vérifier. Fringues, musique, époque, en quelle année aimeriez-vous revenir, par exemple? Vos réponses avant 16h30 dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, pourquoi Cyril Lacarrière porte-t-il des Air Jordan à 50 ans passés, alors que son podologue lui a prescrit des Mephisto? Pourquoi ai-je dépensé une fortune dans une paire de chaussures que mon grand-père lui-même aurait trouvé ringarde? Réponse dans le Zoom Zoom Test consacré aujourd'hui à ces modes qui reviennent qu'on sait pas trop pourquoi finalement. Juste avant 17h, l'apparition toujours féerique de Gigi Pop, le sosie blanc de Tony Parker, sera certainement un moment suspendu dans cette émission. Mais d'abord, Emmanuel Fantin, est-ce que la nostalgie c'est toujours forcément un fantasme du passé?
Absolument. La nostalgie est par nature un regard fantasmatique, c'est-à-dire positivé, posé sur le passé. On a tendance à considérer que la mémoire c'est l'accumulation des souvenirs. En fait, la mémoire, c'est un processus dynamique dans lequel l'oubli a une très forte, un rôle très fort.
On retient ce qu'on veut.
Voilà. Et cet oubli, lorsqu'il est, on va dire, savamment utilisé, nous permet de nous souvenir du meilleur, enfin, de ce dont on a envie de se souvenir du passé, d'où la logique fantasmatique d'idéalisation, pardon, au cœur de la nostalgie.
nostalgie.
Lui, il semble tout droit surgi du passé. Ce passé insouciant, cette France des années 60 où on twistait sur Chubby Checker un verre de Cacolac à la main. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à tous, bonjour
ça
à
vous
tous.
Rappelle des souvenirs tout ça.
Le Cacolac, oui.
Évidemment. Cyril, chaque après-midi, c'est à vous, le doyen de l'émission, je le rappelle une fois de plus au cas où quelqu'un n'aurait pas compris. De poser les bases de notre discussion. Dites-nous, le foreverisme, d'où ça sort ?
Foreverisme, quand le monde devient un jour sans fin. C'est le titre du livre de Grafton Tanner, sorti en novembre 2024, novembre dernier donc. Vous allez me demander qui est ce Grafton Tanner. Manon, vous allez me demander ça ?
Oui, c'est qui ?
Eh bien, sachez que c'est un jeune auteur américain de 35 ans, déjà 4 livres à son actif. Chaque fois autour des thèmes des nouvelles technologies et de la nostalgie. Et c'est donc à lui qu'on doit notre mot du jour, foreverisme. Voilà ce qu'il en dit. C'est une dynamique qui se manifeste par la prolifération de remakes cinématographiques, de séries ou de styles rétro et de reformations de groupes musicaux anciens, reflétant une culture obsédée par le recyclage du passé plutôt que par l'innovation. Fin de citation.
Mais si ce Grafton Tanner a inventé le mot, ce mouvement avait déjà été analysé par d'autres.
Oui, mon bon Noël. Par exemple, par Simon Reynolds, un critique musical anglais dans son livre Retromania, comment la culture pop recycle son passé pour s'inventer un futur, sorti en 2010 et 2 ans plus tard dans sa version française. Il y raconte comment le rock est devenu une sorte de grande malle où tous les nouveaux artistes viennent piocher quelque chose pour créer quelque chose d'à peu près nouveau. Rock'n'roll is dead, chantait Lenny Kravitz. Rock'n'roll is alive and it lives in Minneapolis, lui a répondu Prince plus tard. Bon, il n'y a plus que le premier qui est vivant, mais vous avez compris le message. Pourquoi alors est-ce qu'on est nostalgique ? Pourquoi est-ce qu'on recycle ? Pourquoi on a besoin de ces madeleines ? Pourquoi on n'invente plus rien ? Et si ce n'était pas vrai au fond ? Et si on inventait encore des trucs chouettes ? Et si on avait encore envie de découvrir de vraies nouvelles choses ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Ça me fait penser qu'on embrasse cette personne qui était avec vous au concert de Prince. Hein. Vous aviez passé une belle soirée.
C'est on l'embrasse.
Un beau concert. Il y avait autant d'action sur la scène que dans la fosse.
On ne sait toujours pas qui c'est.
Bah non, toujours pas.
Non, c'est vrai, mais un jour, on saura un jour.
Le mystère plane.
On saura un jour.
Emmanuel Fanta, pourquoi est-ce qu'on est tant attiré par le passé ? Et surtout, est-ce que c'est récent comme phénomène ou finalement c'est quelque chose d'ancestral ?
Alors, c'est absolument pas récent. Je commence par la deuxième question. La nostalgie, c'est une émotion anthropologique majeure qui existe, j'oserais dire, depuis la nuit des temps, même si le mot est relativement récent. Il a été inventé au XVIIe siècle. Ce qui est intéressant, par contre, dans les dernières décennies, et puis si on s'inscrit dans la logique d'histoire des médias, on va dire, dans l'économie médiatique contemporaine à mes yeux, c'est-à-dire depuis le début du XIXe siècle, ou moderne, depuis le milieu du XIXe siècle, c'est qu'en fait, les médias, à mon sens, c'est effectivement très lié à l'accélération médiatique et à la production médiatique, sont venus redéfinir ou réinventer cette notion de nostalgie.
Alors comment on explique ça ? C'était du pain béni pour les médias de se retourner vers le passé ? C'est plus simple pour écrire un article ? Comment vous expliquez ça ?
Alors, en fait, si vous pensez à l'histoire des médias, par exemple, je ne sais pas, l'histoire de la télévision, par exemple, vous voyez que dès le début de la télévision, on a la possibilité de rediffuser, donc il y a la pratique de la rediffusion. Ensuite sont venues s'ajouter les technologies pour enregistrer. Dès les premiers Discman, on avait la possibilité, et on l'a encore aujourd'hui, d'écouter une chanson en boucle. Donc cette dynamique de répétition, elle est au cœur même de la matérialité des médias, et cette cyclicité, en fait, ces rendez-vous sont... c'est une des réponses à cette question.
Et aujourd'hui, c'est encore pire avec les réseaux sociaux, je suppose.
Alors, les réseaux sociaux, ils viennent complexifier la chose de deux manières. La première, c'est que, effectivement, c'est une caisse de résonance, etc. Mais surtout, à mon sens, les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est le paradoxe avec lequel ils se saisissent de la nostalgie, à savoir que ils permettent, les réseaux sociaux, donc, qui sont le chantre des médias numériques, permettent de simuler, avec beaucoup de précision, les médias analogiques. Et cette rupture entre monde analogique et monde médiatique, voire entre le monde pré-réseaux sociaux et le monde post-réseaux sociaux, elle inscrit en fait des dynamiques de contraste esthétique, culturel, dans les pratiques aussi. Et du coup, c'est aussi une des réponses à votre première question, qui est pourquoi est-ce qu'on est plus nostalgique maintenant ? On a des marqueurs très forts.
Mais vous dites qu'on est nostalgique depuis la nuit des temps. Ça, c'est chimiquement en nous, l'homme, est par essence un peu mélancolique quand il pense au passé ?
Non, pas du tout. Quand je dis on est nostalgique, non, c'est-à-dire que non, disons que c'est plus complexe que ça. Si vous pensez, en fait, c'est juste que l'émotion au point de vue individuel et aussi dans sa portée culturelle, elle existe. Mmh. Si vous pensez par exemple à Ulysse, mmh. Ulysse c'est un personnage nostalgique par excellence, mmh. qui passe des décennies à essayer de rentrer chez lui. La nostalgie, étymologiquement, c'est pas juste revenir vers le passé, c'est revenir chez soi. Ce qui n'est pas pour autant définitoire de l'identité de tout le monde, et c'est pas parce que on peut avoir des élans de nostalgie où certaines personnes peuvent à titre individuel être, je sais pas, fascinées, passionnées par leur enfance, que je suis pas en train de dire que c'est homogène et unilatéral. Mmh. Voilà.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Le syndrome du rétroviseur. Zoom aujourd'hui sur le foreverisme, cette tendance qui nous pousse à constamment nous tourner vers le passé. La maîtresse de conférences et chercheuse au CELSA, spécialiste en sciences de l'information et de la communication, Emmanuelle Fantin, est toujours avec nous pour décortiquer ce qui se cache derrière ce terme de foreverisme. Mais d'abord, on en parlait en antenne, j'aimerais qu'on vienne sur l'étymologie de nostalgie.
Alors la nostalgie, c'est un terme qui a été inventé de toutes pièces par un médecin au XVIIe siècle, et ça vient de nostos, qui veut dire le chez-soi, et algia, la douleur. Donc c'est la douleur de ne pas pouvoir rentrer chez soi qui l'identifiait chez certains mercenaires partis en guerre pendant des années et des années et des années, avec des symptômes qui étaient médicaux, cliniques très forts, de l'anorexie, etc. Enfin voilà, et qui étaient soignés, hein. Donc ce qu'on appelle en anglais donc le mal du pays, en anglais on dit homesickness. Et pendant des années, on a fait des thèses en médecine sur la nostalgie, qu'on essayer de soigner comme... puisque c'était considéré comme une véritable maladie. Et en fait, au tournant du 19e siècle, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'apparition de la psychanalyse, la notion de dépression, du coup. Et donc, la nostalgie est passée petit à petit. Bon, il y a eu plein de choses, hein, qui ont fait qu'elle est passée dans le langage courant. Elle s'est dissociée justement de la dépression et de la mélancolie. Et en passant dans le langage courant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a modifié progressivement le sens de la nostalgie. Et on est passé d'une douleur de ne pas pouvoir rentrer chez soi à une douleur de ne pas pouvoir rétropédaler dans le temps.
Revivre une époque qu'on a connue, ou pas d'ailleurs, on va y revenir. Pour revenir au mot foreverisme, Cyril nous expliquait tout à l'heure que ce foreverisme, il s'appliquait avant tout à l'art. Est-ce que c'est pas le propre de l'art de s'inspirer de ce qui se faisait dans le passé pour créer autre chose ?
Si, tout à fait. On n'a qu'à penser par exemple à tous les artistes qui ont bâti leur carrière sur leur art de sampler, donc de réutiliser des œuvres. Enfin voilà, moi je ne partage pas du tout cette analyse. Bon, je dois vous dire déjà, je ne partage pas du tout une grande partie des analyses de ce cher auteur qui nous parle de foreverisme, qui à mon sens est un nostalgique de la nostalgie. Ou un très bon marketeur de... Parce que c'est vrai que dans la nostalgie, on voit une espèce d'inflation de tous ces termes qui viennent la catégoriser, donc remake, rebook, etc. Et aussi du côté des chercheurs,
il y a ça aussi chez vous.
Manifestement, pour venir finalement désigner souvent des choses qui sont à peu près similaires. Mais du coup, j'ai oublié votre question. Excuse-moi.
Non, mais ma question, c'était juste, c'est quand même le propre de l'art de s'inspirer de ce qui a déjà été fait.
Oui. Si vous prenez l'histoire de la littérature, c'est aussi une histoire du pastiche, de la parodie, de la réécriture, etc. Il y a une espèce de... derrière cette idée de foreverisme, l'idée qu'il faudrait des créations ex nihilo, pour moi, c'est pas du tout...
Non, mais parce que l'art, c'est cyclique, quand même. Enfin, la mode, l'art, la musique, le cinéma, c'est cyclique.
Oui, tout à fait. En fait, la mode, le principe même de la mode, c'est la cyclicité.
En fait, on est nostalgique tout le temps.
C'est pas qu'on est nostalgique tout le temps, c'est que le fait... il faut dissocier, en fait, le fait d'utiliser... de pas imaginer qu'une œuvre d'art puisse être créée ex nihilo et qu'on ferait table rase du passé, et la nostalgie qui est vraiment un regard particulier porté sur le passé, dont on a commencé à en parler en parlant de fantasmes, c'est pas rien.
Je vais essayer de prendre un exemple très concret pour les auditeurs. Alors je sais pas si ce que je dis est vrai, d'ailleurs c'est juste une intuition. J'imagine dans les années 50, un jeune des années 50, il découvre le rock'n'roll, il va être à fond dans cette nouvelle musique qui est relativement récente, donc vraiment du moment. Il va pas s'intéresser peut-être au jazz du début du siècle, au classique encore moins. Il est dans une période de création. Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas dans une période nostalgique. On prend un jeune d'aujourd'hui, il va être fan des années 90, de l'habillement des années 90, des musiques des années 80. Est-ce qu'il y a pas quand même beaucoup plus de nostalgie à notre époque que à certaines époques, en tout cas, de l'histoire de l'humanité.
Alors, pour vous répondre avec précision, il aurait fallu qu'on puisse quantifier. Moi, je suis chercheuse, donc je ne peux pas vous répondre par oui ou par non. Maintenant, on observe de toute manière des tendances. La véritable tendance, ce n'est pas qu'on est plus nostalgique maintenant, c'est que ça s'accélère et ça se pressurise. C'est l'accélération et la pressurisation de notre vécu, de notre rapport au temps. Si vous prenez... Bon, du coup, je vais encore plus loin que les années 50, ouais. Vous prenez un mouvement culturel et artistique comme la Renaissance. C'est quand même un mouvement artistique où on s'est dit, tiens, si on se mettait à imiter
l'Antiquité,
c'est comme si nous, on se mettait à... Enfin, voilà, ce qui change vraiment, c'est pas tant le fait de dire dans les années 50, on n'était pas nostalgique, surtout que sur la question de la musique, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la nostalgie. Par exemple, je vous cite un chercheur qui travaille sur la nostalgie dans les années 20, donc dans les partitions de musique de piano, on voit déjà l'inscription de la nostalgie au sens de référence à l'idée que les musiques étaient mieux avant, etc.
Déjà enfin, voilà. Dans les années 20.
Vous pensez à des mouvements historiques comme la Restauration. Enfin, voilà, il peut y avoir eu toujours cette présence du passé, et il y a toujours cette présence du passé. Maintenant, il y a une accélération. C'est-à-dire que maintenant, et c'est ce que montrait déjà Simon Reynolds il y a 15 ans, mais ça continue de s'accélérer. C'est-à-dire qu'on est maintenant nostalgique, en quelque sorte, d'un passé presque immédiat.
Oui, d'un passé
très
récent.
C'est la grande différence.
Et vous, êtes-vous des foreveristes, Quentin? Vous êtes allé poser la question aux passants dans la rue, tout simplement.
Je longe la Seine. Je dois avouer que la douceur de ces derniers jours change légèrement mon quotidien. C'est d'ailleurs ici que je fais ma première rencontre. Il est adossé contre une rambarde, un instrument en cuivre entre les mains. Allez, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Mathia. Mathia.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
J'essaie d'apprendre la trompette.
Bon, ça s'entend un peu, c'est un des instruments les plus difficiles à découvrir. Il découvre néanmoins notre mot du jour.
Le foreverisme.
Est-ce que vous êtes nostalgique, vous ?
Ouais, quand même. Ça m'arrive, quand je vais mal.
Quelle époque vous fascine ?
Moi, j'aurais bien aimé voir les années 50, l'après-guerre. À mon avis, ça devait être une période assez... assez prolifique, comme un énorme printemps qui dure 10 ans ou un truc comme ça, quoi. Je vois ça comme ça, mais c'est dans ma tête.
Je me sauve assez vite pour laisser l'apprentissage de ces gammes et ces fausses notes derrière moi.
C'est ici.
Quel odieux personnage, Quentin.
C'est
vous
ici,
êtes le pire d'entre nous.
C'est ici que Joseph, tout en costume à rayures, s'essaye à notre anglicisme.
Foreverisme, ça vient de forever, c'est-à-dire les gens peut-être qui se croient éternels.
Ah oui, c'est joli, mais je lui raconte notre thème. Pourquoi la société se complaît-elle dans la nostalgie, les remakes de films, le recyclage d'émissions de télé, la musique aussi, les fringues? Pourquoi vivons-nous dans ce décor saupoudré du passé?
Ouais, bon, monsieur, vous savez bien que tout le monde, tous les gens sont différents, hein, mais pour eux, le présent, il est tellement horrible, il est tellement infect, qu'ils se réfugient dans la nostalgie. C'est-à-dire, ils se réfugient dans les bons moments qu'ils ont passés. Voilà, c'est un genre d'oxygène pour eux.
Je lui demande si lui, Joseph, est nostalgique d'une époque.
Moi, je suis né en 48, on va dire peut-être en 60, par là.
Écoutez quoi, la radio ?
Dalida, elle a regretté, ouais. Hier, je l'ai entendu à la radio, j'ai eu beaucoup de peine. Hein. Elle était vraiment top.
J'aime bien ce concept. Du coup, j'arrête plein de gens. Je demande à Mila, qui habite à Vienne, si elle est nostalgique.
Oui.
De quelle époque ?
1996. This is the real yeah. The night. Good time.
Et Angelina, qui passe devant moi avec sa housse de téléphone à clapet, ses cheveux courts et colorés.
Oh, moi, ce serait les années 80. Hein. Bah, 87 alors. Mes 20 ans.
On écoutait quoi à la radio en 87 ?
Oh eh, ah, ouais. Rien de mieux. Ah ouais, non, c'est très bien. ça me plaît.
Je marche quelques mètres en pensant à YouTube, à l'Irlande et à mon rédacteur en chef. C'est là que je tombe sur cette jeune femme qui a posé ses chaussures Caterpillar à côté de son livre. Elle dessine pieds nus au bord du fleuve. Quel est son prénom ?
Lola Rose. J'ai 24 ans et demi.
Elle découvre en fronçant les sourcils
le foreverisme. Je pense que c'est assez facile, peut-être même un peu agréable de se complaire dans la nostalgie, ouais, complètement. Après, c'est pas le cas de toutes les époques, là, quand même. Celle qu'on cherche à faire revenir au goût du jour, c'est celle, quand même, des années de 70, 80, 90, 2000. Ouais, personne n'est habillé comme à la belle époque, ou ce genre de choses non plus. Du coup, la question, c'est peut-être pourquoi ces époques-là ?
Alors, c'est vrai, ce foreverisme qu'on pourrait traduire par présent perpétuel se boucle sur 3 ou 4 décennies. Et Lola fait une observation amusante sur les années 2000, très prisée par sa génération.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est aussi pas mal des gens de mon âge qui n'ont pas connu... Enfin, tu vois, années 2000, on était soit tout petits, soit pas nés. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont si fantasmées que ça, et si elles étaient vraiment meilleures. Bon, en tout cas, elles sont associées à une vraie insouciance qu'on n'a pas forcément maintenant, et qu'on essaye peut-être un petit peu de retrouver en consommant, utilisant des codes de ces époques-là.
Et oui. Ouais. Oui, on les voit, ces vingtenaires empreints de nostalgie, mais est-ce qu'ils vivent vraiment leur époque en faisant cela ? C'est sur cette question que je fais bugger Juline, 21 ans, qui porte des buffalo avec d'énormes semelles compensées.
Ah, je sais. Ah, je sais même pas quoi en penser, en fait. Là, je réfléchis, mais je me dis, d'un côté, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien ? Non, c'est pas non plus bien, parce qu'il y a la montée de l'extrême droite, si on parle franchement, donc c'est pas non plus une... Et il y a plein de choses dont on parlait pas et qu'on taisait. Et heureusement, pour le coup, que dans notre génération, il y a une libération de la parole, même s'il y a plein de trucs qui vont pas à côté, comme Instagram, Elon Musk, Trump, les guerres et toute cette merde, mais au moins, on ouvre un peu sa gueule, et ça, c'est mieux, quoi. Mais le reste... Ouais.
C'est vrai qu'on se sent bien à fantasmer les décennies passées, à emprunter leurs codes, leurs accessoires, leurs fringues, redécouvrir aussi leur musique. Peut-être qu'on a simplement du mal à être dans le présent, car celui-ci, quoi qu'on en dise, s'échappe toujours un peu trop vite.
Bravo Quentin, déjà pour le micro-trottoir et aussi parce que vous avez réussi à choper le 06 de Lola Rose, me signale-t-on, en régie, enfin. Effectivement, hein, on dit tout dans cette
jeune.
Émission. Mais évidemment, 24 ans.
Vous savez que je suis très professionnel, moi.
Oui, jusqu'au bout des ongles, je le sais, Quentin. Plus l'époque est dure, plus on se réfugie dans le passé. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ?
Oui et non. Enfin, c'est une question difficile. Là, je m'amusais en écoutant du coup ce micro-trottoir très drôle, notamment du monsieur qui disait « le présent est un fact ». Mais le présent est un fact, c'est des choses qu'on entend depuis... Si on avait pu retrouver des micro-trottoirs des années 50, on entendait déjà ces phrases. Et alors là, du coup, je ferai appel plutôt à un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, qui est un des plus grands chercheurs sur la nostalgie, à mon sens, grand philosophe du XXe siècle, qui nous dit... Bah finalement, le moteur de la nostalgie, c'est la simple question de l'irréversibilité du temps. Le présent n'a pas de charme. Le présent, il est là. Il est d'une banalité. Quoi qu'il arrive, il est là.
Mais comment on arrive à vivre dans son époque avec ce raisonnement-là ?
Ah bah ça je ne sais pas. Bah, si je vois mes étudiants par exemple, je pense qu'en fait il y a quelque chose de la pop culture qui est très amusant, c'est la capacité à mêler tel un palimpseste, à mêler plusieurs époques. Enfin, moi j'ai des étudiantes qui sont habillées, coiffées, j'ai l'impression de voir Desireless, et en même temps qui sont par ailleurs très modernes.
Dans leur temps. Voilà, c'est dans ça. Dans chaque époque, ce qui nous plaît finalement. Ouais. Manon.
Mais est-ce que aussi ce sentiment, il est pas lié tout simplement à l'envie de retrouver une jeunesse et notre jeunesse. Enfin, je sais pas. Moi, je vais être nostalgique des années 2000, pas parce que j'avais 15 ans, 16 ans, que j'étais ado et que je kiffais. Donc l'insouciance dont parlait Lola Rose dans le micro-trottoir.
Alors, à l'échelle individuelle, mais après moi je ne suis pas psychologue, il faudrait des chercheurs en psychologie pour vous répondre précisément, mais les études en psychologie justement montrent que la plupart des gens qui peuvent ressentir de la nostalgie le ressentent en particulier pour leur enfance et leur adolescence, qui sont par définition les périodes qui ne reviendront plus. Et c'est toujours ce moteur de l'irréversibilité, de ce que vraiment on ne pourra plus jamais toucher du doigt, qui génère de la frustration et de l'absence. Et le désir, on le sait, se fonde sur l'absence.
La nostalgie, ça peut nous rendre malades ?
Ça dépend ce qu'on entend par malade.
Si ouais, on pense à dépression.
Ah, bien
à
sûr. Oui. Mais alors, du coup, ça va plutôt être, dans le champ de la psychiatrie, on va plutôt parler de mélancolie. Ça s'est vraiment dissocié maintenant de la nostalgie. C'est pour ça que je vous disais, avant la nostalgie, maintenant que c'est passé dans le langage courant, on va plutôt parler de mélancolie dans ce sens-là.
Qu'est-ce qui vous dérange dans la notion de foreverisme ? J'avais l'impression que pour vous, c'est un peu du marketing.
Oui, pour moi, c'est pas que c'est un peu du marketing, c'est-à-dire que en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il prétend regretter la nostalgie, c'est-à-dire il dit à cause du foreverisme, ce qui serait une forme de présent perpétuel, on perdrait l'idée même de perte et du plaisir de la perte qu'est la nostalgie, d'accord. Parce que la nostalgie, à l'inverse de la mélancolie, est une émotion douce amère. Il y a la douleur de la perte, mais il y a le plaisir de réécouter, le plaisir esthétique, par exemple, de s'amuser avec les codes d'une ancienne époque. Et lui, en fait, d'après moi, en fait, il fait c'est lui-même un nostalgique réactionnaire, c'est-à-dire il nous dit c'était mieux avant parce qu'avant on était vraiment nostalgique, alors que maintenant on n'est plus vraiment nostalgique. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et en plus, ce qu'il étudie, à savoir, il se fonde beaucoup sur les remakes, etc. Enfin, l'industrie médiatique, comme l'a très bien souligné votre chroniqueur tout à l'heure, Simon Reynolds en parlait dans les mêmes termes il y a 15 ans.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Quand le passé imprègne le présent, quand le recyclage devient un mode de vie, ça nous parle ici à Zoom Zoom Zen entre Ghislain Fontana, notre réalisateur décroissant qui se sert de la même pierre d'Alain depuis son passage à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Alicia Bulot, notre réalisatrice gogo-danseuse qui porte le faux léopard d'Amandalire, Quentin et ses blousons rétro-futuristes, Manon et sa passion pour Lionel Richie.
Et le vin blanc.
Et la justesse vocale, et la justesse vocale très importante.
Toujours, toujours.
Sans oublier Cyril Lacarrière qui s'est fait tatouer U2 sur le cœur juste en dessous de Les Jeunes avec Chirac.
Oh.
Jouons au Zoom Zoom Test.
C'est ça, ces tatouages en fait.
Un quiz en forme de question pour un champion de la rétromania. Je vous lis une biographie comme si c'était la mienne. Je finis en trépignant de manière saccadée. Je suis comme Julien Lepers à l'époque où il avait encore les moyens de commander de la coke au kilo.
Ouais.
Attention, top. Je suis une marque française créée en 1908, d'abord appelée Chaussures Extra. C'est à la suite d'un voyage aux États-Unis de mon fondateur Rémi Richard que je me lance dans les chaussures de montagne avec mon brevet sur les semelles crantées. Mon modèle iconique, Michael, créé en 1945, me permettra d'éviter le dépôt de bilan dans les années 80 en devenant un must-have du style prépi avec sa grosse semelle en caoutchouc cousu main qui a bien aidé les participants à
les
la manif pour tous.
Les Doc Martens.
Il est désormais adopté par tout le 11e arrondissement
les
et les bobos gauchias de France Inter comme
Quentin. Les Parabouts.
Et votre co-serviteur, je suis Parabouts.
Ah,
bonne réponse de Manon Mariani. Soyez patients, bientôt
vous
portez
vous en avez
des Méphistos.
Bah,
on en a, mais pas les mêmes. Attention, top à la question. Née en 1958 en Angleterre, à 19 ans, j'ai été la première autrice, compositrice, interprète à me placer en tête des singles anglais.
Et je décroche
le Brit Award de la meilleure chanteuse en 1987. Mes partis pris musicaux, mes disparitions régulières de la vie publique ont façonné mon aura d'artiste mystérieuse, audacieuse, limite avant-gardiste, faisant l'objet d'un véritable culte auprès de mes fans. Oui, Manon ?
Moi !
Oh, presque, j'aurais aimé dire oui, mais non.
Quelle modestie.
Mon aura d'artiste mystérieuse assurant le succès de mes disques, même sans promotion ou tournée. En 2022, la Gen Z, en PLS après la mode des Stan Smith, découvre mon existence.
On peut répondre,
Running Up That Hill, dans Stranger Things. Mais oui, mais oui, mais non.
Ah, pardon.
Oui, bonne réponse de Quentin. Vous pouvez y aller, mais non, n'ayez pas peur. Croyez en vos rêves.
On sait pas, il y a des droits SACEM, tout ça, on ne comprend plus après.
Kate Bush a touché des droits SACEM, effectivement, quand elle entend sa musique sur France Inter. Fan de la série, elle donne son accord pour l'utilisation du morceau dans la 4e saison qui va rester le morceau le plus chazamé de l'histoire jusqu'en 2024, premier sur iTunes et en tête des écoutes Spotify, 37 ans après sa sortie. Vous avez aimé passer de Parabout à Kate Bush ? Top ! Question suivante. Retournons en France. Produite de 1972 à 1986, j'ai été vendue à plus de 5 millions d'exemplaires et je serai le modèle le plus vendu en France pendant 10 ans. Surnommé Le Car ou Supercar, je viens d'être relancé dans ma version électrique en septembre 2024. Avec une... Oh oui, avec un petit chéco à la clé pour Eric Judor. Effectivement, la R5 et non pas les L5.
De ta vie. Ça pourrait revenir. Ah, mais elles sont revenues.
Elles sont
revenues. Les L3,
mais
je crois.
Tout revient, enfin, car les modes sont cycliques. Plaisir de
rire.
Remontons dans le petit train du Gai Savoir avec une question remplie de chiffres qui donne le vertige, sachant, Quentin, que la réponse n'est pas votre déclaration de l'URSSAF. Attention, ça devrait aller très vite. 500 millions d'exemplaires pour 7 livres, 8 milliards de recettes pour 8 films, une success story entamée il y a 28 ans et qui devrait se poursuivre en 2026 avec une série dont on a beaucoup parlé, et pas seulement parce que Cyril est le sosie pileux d'Hagrid, Harry Potter.
Je me suis dit, c'est bizarre de parler d'elle.
Alors voilà un reboot qui ne va pas nous aider à guérir du foreverisme. Peu d'infos sur le casting, sinon que c'est Pierre Courade qui jouera cette fois James Potter, le père d'Harry. C'est son sosie et il est moins cher, c'est tout bénef pour la prod.
Ah oui. Faut qu'il demande un gros chèque quand même.
Non, mais il a rien demandé, il y va gratuitement. Qui fait ça comme la minute chrono. Attention, on repart, mais oubliez le format question pour un champion, retour au bon vieux QCM. Parmi ces trois propositions, laquelle ou lesquelles sont des produits iconiques datant des années 70 et recommercialisés à nouveau ces dernières années ? Pif Gadget, le magazine avec des jouets surprises dedans. Bonux, la lessive avec des jouets surprises dedans. Ou Kinder, l'œuf en chocolat avec des jouets surprises dedans.
Les trois.
Je vous donne le...
A et B.
A et B, bonne réponse de Manon. Et un petit piège, Kinder n'a jamais disparu de la circulation, à la différence des deux autres. Pif Gadget, qui, on l'oublie trop souvent, a quand même lancé Corto Maltese.
Ah oui.
Et c'est pas rien. Et justement, pour finir cette petite info déroutante, Pif Gadget, un journal historiquement lié au Parti communiste, a été relancé par un ancien secrétaire d'État du gouvernement Fillon. S'agit-il de Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises? Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des transports et oncle célèbre de la Marianoche?
C'est pas mon oncle.
Ou Pierre Lelouch, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur?
B.
Pardon, quoi?
C, commerce extérieur?
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Ah.
Oh, Manon, quelle bluffante réponse, effectivement. Un membre du gouvernement Fillon à la tête d'un journal communiste. Et dire qu'on a vanné Castaner quand il est parti chez Chine. Frédéric Lefebvre, à qui on doit la réponse culte sur ses goûts littéraires.
Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent ?
Le plus marqué, sans doute, Zadig et Voltaire. parce que c'est une leçon de vie. Et je m'y reproche d'ailleurs assez souvent.
Et pas assez souvent, visiblement, mon Fredo. Zadie Gabelter, victoire de Manon Mariani, la reine de la nostalgie.
Merci à tous.
Ça a encore été bien compté, cette histoire.
Ça a été parfaitement compté, oui, Quentin. Vous avez une réclamation à déposer?
Oui, j'en ai. Moi, Cyril, il compte en régie.
Vous verrez ça pendant mon congé paternité. Quand la nostalgie devient générationnelle, Zoom cet après-midi sur le foreverisme. Emmanuel Fantin, spécialiste en sciences de l'information et de la communication, est toujours avec nous. Emmanuel, vous nous disiez qu'en fait, la nostalgie était un mythe. Est-ce qu'on peut être nostalgique d'un passé qu'on n'a pas connu?
Tout à fait. Puisque la nostalgie, comme je l'expliquais tout à l'heure, se fonde sur une logique fantasmatique. Non seulement on peut être nostalgique d'un passé qu'on n'a pas connu, mais la nostalgie, elle est d'autant plus forte qu'elle est irrationnelle. Mmh. Donc quand on se fonde sur un passé qu'on n'a pas connu, on est d'autant plus irrationnel. Et ça a été théorisé par plusieurs chercheurs qui appellent ça, par exemple, David Berliner appelle ça exonostalgia. Mais Apadurai, qui est un grand sociologue spécialiste du capitalisme, appelle ça armchair nostalgia dans les années 90 déjà. Donc vous voyez que c'est encore une fois un phénomène pas nouveau.
Alors c'est pas nouveau, mais on le disait un peu, ça s'amplifie. Quand on regarde les trois films sortis en 2025 qui sont pour le moment en tête du box-office en France, c'est assez dingue, c'est que des suites. Les Tuches, Paddington et Captain America. Mmh. C'est que ça dit quand même quelque chose de notre époque. Si on prend le box-office en 1960, on ne va pas retrouver des reboots, des prequels, ouais, et que sais-je.
Ouais. Alors, bah, ce que ça dit... alors, parmi les causes ou parmi les interprétations qu'on peut avoir pour, qui nous permettent d'éclaircir et de se demander pourquoi est-ce que justement il y a une telle production de, notamment cinématographique nostalgique. Alors, il y a évidemment le fait que c'est un moindre coût. Enfin, c'est mm-hmm. plus simple en fait, de reproduire ou de produire une suite que de créer une œuvre.
Ouais. Oui, mais le public pourrait au bout d'un moment ne plus suivre. Or, alors, on a l'impression qu'il suit toujours.
Le public, eh ben, du coup, c'est toute la différence entre... Enfin, c'est toute la spécificité du revisionnement dont on parlait un peu tout à l'heure. Ça rejoint un peu ces logiques de fans qui regardent 15 fois la même série télé alors qu'ils la connaissent par cœur, etc. C'est qu'il y a, en fait, la redécouverte nécessite beaucoup moins... Il y a un plaisir, en fait, esthétique de la redécouverte qui nécessite beaucoup moins d'efforts que la découverte. Mais c'est pas pour autant que...
Attendez, je fais un lien. Je sais que vous n'êtes pas psychologue, mais... les enfants, les petits-enfants adorent revoir sans cesse le même
tout
dessin animé, parce que vraiment, c'est moins fatigant et ça les rassure. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir tous des gosses?
Alors,
vous
pouvez pas me faire dire des choses comme ça, parce que je n'irai pas sur des champs. Vous m'invitez en tant que chercheuse, je peux vous donner mon opinion.
Vous n'avez pas le droit.
En tout cas, c'est vrai que sur les enfants, évidemment, il y a une logique de répétition et il y a un plaisir en fait à connaître et reconnaître une histoire. Et c'est ce que un philosophe comme Deleuze explique dans Différence et répétition, par exemple, où il montre très bien que la répétition n'est pas le retour du même. Quand on re-regarde une série, on a évolué entre-temps, donc en fait, ça n'est pas c'est pas un retour au même. Il y a une évolution, en fait. C'est un processus.
Et en politique, alors la nostalgie, vous dites que les personnalités politiques de droite s'appuient sur la nostalgie pour soutenir leur thèse décliniste. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tout à fait. Alors, vous voyez, ça, c'est le versant beaucoup moins rigolo de la nostalgie. si on pense, par exemple, à Éric Zemmour, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, alors lui, il fonde l'intégralité de ses discours pratiquement sur la nostalgie, et ce qui est intéressant, enfin, sur un certain type de nostalgie, ce qui est hyper intéressant dans les discours d'Éric Zemmour, c'est qu'on voit bien le fondement de la nostalgie, qui est donc une logique mémorielle, qui n'est pas une logique historique.
Et non, parce qu'on voit les fantasmes qu'il a sur, par exemple, le Pétain qui aurait sauver des juifs, il a d'ailleurs été condamné
récemment
pour ses propos.
On est dans l'instrumentalisation de l'histoire, même des images d'archives, enfin voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur quoi il s'appuie, enfin comment est-ce qu'il fait passer sa nostalgie? Sur une indétermination. Par exemple, il dit tout le temps « depuis la nuit des temps »,« depuis des décennies », pour montrer, en fait, peu importe cette approximation mémorielle, qui du coup crée un consensus, parce que moi, quand je l'écoute, je me dis « ah bah j'imagine qu'il se réfère à depuis 10 ans, pour d'autres depuis 15 ans, etc. » Chacun y trouve... Et l'idée, c'est toujours montrer que le présent est en déclin.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un foreverisme de gauche? Est-ce qu'il joue un peu sur la nostalgie? Je pense à Mélenchon avec Georges Marchais ou Mitterrand.
Oui, en fait, alors disons que ça s'exprime de manière différente, mais c'est vrai que le caractère réactionnaire de la nostalgie tel qu'il s'exprime à droite ne veut pas dire qu'en politique la nostalgie n'appartient qu'à la droite. Dans le culte en fait, des anciens, par exemple le culte de la révolte, aujourd'hui on ne saurait plus se révolter, on ne saurait plus le peuple ne saurait plus manifester, etc. comme à la belle époque. Alors là encore, de quelle époque on parle, mais bien sûr ça existe aussi à gauche.
Est-ce que le danger aussi c'est pas de revenir à des modes de vie de l'époque? Je pense par exemple au mouvement Tradwife, le retour des femmes au foyer qui marche énormément, notamment sur les réseaux sociaux, c'est du foreverisme négatif en un sens, ça.
Tout à fait. Enfin, tout à fait. Là, je vous donne mon opinion. Mais alors, le tradwave, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment une logique. C'est une espèce de paralysie représentationnelle très publicitaire. Mm. Mais encore une fois, c'est un regard du présent porté sur le passé. C'est-à-dire que c'est le présent tel qu'on s'imagine être la femme dans les années 60. Enfin, 60 ou 50, là encore, il y a un flou chez ces femmes-là. Je sais plus comment finir votre question.
Je m'arrête là. Je veux savoir si c'était du forêverisme négatif, si c'était... voilà.
Négatif, en fait, j'ai du mal à employer les termes négatifs, positifs, mais c'est réactionnaire, on va dire.
Bon, de toute façon, réécoutez notre émission sur les tradwives.
Excellente émission
avec Salomé Sakai, qu'on embrasse évidemment, au passage. En 2023, parce que là, on déconstruit, on analyse, mais est-ce qu'on peut apporter une réponse à ce phénomène ? En 2023, un sondage Ipsos disait que 70% des moins de 35 ans estimaient que c'était mieux avant, le fameux « c'était mieux avant ». Comment on fait pour faire comprendre aux gens que peut-être, finalement, c'était pas vraiment mieux avant.
Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec... Je suis désolée de déconstruire toutes vos questions, mais j'ai beaucoup de mal avec la notion de sondage. C'est-à-dire que, dites-vous, quel est l'implicite quand on va poser cette question-là ? C'était mieux avant. Là, on reprend, du coup, la logique de Zemmour, c'est-à-dire l'indéfinition mémorielle. Avant parle-t-on ? Donc, en fait, quand Ipsos va poser cette question, Ipsos s'attend et souhaite faire remonter l'idée que tout le monde va dire oui, c'était mieux avant. Mais, encore une fois, ça peut venir désigner des choses très différentes pour vous ou pour moi qui aurions pu répondre à ce sondage.
Mais qu'est-ce que vous foutez chez Ipsos ? Mais enfin, réveillez-vous, les gars. Vous écoutez France Inter et pour les nostalgiques, il est à peu près la même heure qu'il était quand c'était Antoine Decaune qui présentait cette émission. Et tout de suite, on découvre Manon avec vous, l'autre personne à suivre.
Je vous présente
Sylvester Stallone.
Je vous présente Sylvester Stallone. Il a 78 ans, il est américain et c'est l'un des acteurs de films d'action les plus connus au monde.
C'était pas ma guerre,
réplique culte de Rambo sorti en 1982 avec la voix française d'Alain Dorval. Sylvester Stallone, c'est Rambo, mais c'est aussi Rocky. Deux personnages, deux icônes, deux franchises qui se sont bien étendues dans le temps et qui participent à cette tendance du forêverisme. Sylvester Stallone n'a jamais lâché ces deux personnages cultes en misant à chaque fois sur la nostalgie de ses fans de la première heure. La preuve, Rambo est apparu dans 5 films en 42 ans et Rocky dans 8 films en 41 ans. Rocky Balboa a été le premier à faire son apparition en 1976. Le scénario a été écrit par Sylvester Stallone en personne. Il raconte l'histoire d'un boxeur issu des quartiers pauvres de Philadelphie, un personnage qui va se battre physiquement, mais pas que, pour réaliser ses rêves et se faire aimer du public. Il fait sa dernière apparition dans Creed 2, sorti en 2018. Dans cette autre saga, il joue un Rocky plus âgé, plus sage, qui a rangé ses gants, mais qui devient l'entraîneur et le mentor d'Adonis Creed. Mais Stallone a été évincé de la franchise par les producteurs du film et Michael B. Jordan, qui a réalisé le troisième film en plus d'être la tête d'affiche. Pour lui, il fallait s'émanciper de Rocky pour vraiment donner une dimension à Creed. Mais ça n'a pas plu à Sylvester Stallone, qui a dit au Hollywood Reporter que jamais il ne regarderait Creed 3. Hein? C'est le coup classique, il picore quelques aspects de Rocky par-ci par-là, sans même me demander mon avis ou si je veux en être. Stallone a donc misé sur son autre personnage culte, Rambo, un ancien soldat des forces spéciales américaines traumatisé par son expérience au Vietnam, un personnage plus sombre que Rocky. Il a relancé la franchise en 2019 en sortant le cinquième film Rambo, Last Blood, un film qui s'est fait démolir par les critiques, accusé d'être devenu un symbole pro-Trump, l'Américain violent, ancien soldat qui veut se venger des méchants narcotrafiquants mexicains. Un film bourré de stéréotypes racistes et xénophobes. Aujourd'hui, quand on lui demande s'il pense à en faire un nouveau, Stallone répond « Même si les studios veulent en faire un autre, contre quoi je vais me battre ? L'arthrite ?» C'est vrai qu'à 78 ans, il faut peut-être passer à autre chose.
Très bonne vanne de votre ami Silver Stallone.
J'ai bien réussi à le dire.
Merci, mais effectivement, vous n'êtes pas planté une seule fois. Merci Manon. Emmanuel Fontaine, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que les acteurs, les stars des années 80-90, les studios leur proposent sans cesse de refaire la même chose et eux, en fait, ils n'ont pas très envie, mais la demande est... Alors je ne sais pas si la demande est si forte d'ailleurs du public, c'est juste que les studios se disent que c'est rentable, quoi, finalement, donc ils y vont. On est dans le foreverisme, là ?
Oui, tout à fait. Alors c'est rentable et puis encore une fois, ça rejoint ce plaisir de la continuité, en fait, de rester dans le même espace fictionnel et ça peut être tout à fait une stratégie marketing à l'échelle individuelle de tel ou tel acteur tout à fait compréhensible avec certains qui sortent du jeu comme Pamela Anderson qui ne veut pas qu'on lui propose les mêmes rôles qu'avant et qui ne veut plus être enfermée dedans.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Matt. Mathieu Noël.
Alors que Guigui Pop, en grand professionnel, échauffe sa glotte en vue de sa chronique, il est l'heure de récapituler tout ce qu'on s'est dit sur le foreverisme avec celui qui a fait de la récapitulation son gagne-pain. Or, aujourd'hui, la nostalgie, ça le connaît. Il est l'auditeur d'RMC Gold au singulier, ah oui, il n'y en a qu'un. Bonjour Pierre Courade. Anecdote, apparemment, les valses de Vienne, vous avez entendu ça tout à l'heure, ça vous a ému.
Ah bah, effectivement, c'est mon premier souvenir d'enfance.
Votre premier slow ?
Non, pas mon premier slow, j'étais tout petit. Je pense que je devais avoir 3 ans, je mangeais des bastognes dans la voiture de ma mère.
Mais comment pouvez-vous vous souvenir de ça ?
Je ne sais pas, c'est une réminiscence, hein, peut-être que notre invité peut nous l'expliquer, mais en tout cas, France a fait le mal.
Peut-être qu'elle a autre chose à foutre. Bon. Enfin, je vous le dis en toute amitié. En toute amitié, Pierre.
Mais France a fait le mal, c'est quand même mon petit.
Eh bien, écoutez, il nous écoute, il apprécie.
J'espère.
Le foreverisme en une minute chrono.
Le foreverisme, c'est un concept assez ambigu qu'est venu nous présenter la chercheuse Emmanuelle Fantin, spécialiste de la nostalgie. Déception à première vue, on pensait qu'elle allait débarquer en patte d'eph et porter une veste à paillettes. Bon, Emmanuelle Fantin a immédiatement douché nos espoirs. Pour elle, la nostalgie est un mythe, un regard positivé du passé, nous a-t-elle dit. On fantasme toujours ce qui n'a jamais vraiment existé. On peut même regretter une époque que l'on n'a jamais vraiment connue. C'était mieux avant, même si on ne sait pas vraiment avant quoi. Notre invitée estime, entre parenthèses, qu'on est de plus en plus nostalgique d'un passé presque immédiat. C'est pour éviter de tomber dans cette nostalgie que le foreverisme s'inspire du passé pour le rendre présent. Emmanuelle Fantin est assez critique avec ce concept, elle nous l'a dit. Néanmoins, si on reprend le concept de foreverisme, ça marche très bien dans le cinéma, avec les reboots, les prequels, les suites. Tout ça pour réveiller un souvenir et le projeter sur notre présent. C'est malin et ça cartonne. Si bien que dans le marketing politique, on use également de ce procédé. Zemmour, qui instrumentalise une histoire fantasmée pour appuyer ses thèses déclinistes, par exemple. Chacun peut s'approprier le foreverisme. Quentin aime les sports automobiles et nous chante l'intégralité du répertoire de Michel Sardou à la pause déjeuner. C'est mignon quand même, un enfant nostalgique. Et pour citer son autre artiste préféré, Grand Corps Malade, la nostalgie, c'est la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie.
C'est beau comme du Feldman. C'est magnifique. Voilà. Merci Pierre. Dans le mot foreverisme, il y a forever. Et quand on entend sa voix suave et délicate, on a en effet envie qu'il nous parle pour toujours ou qu'il se taise à jamais. Au choix, Guigui Pop, vous avez bien réfléchi à cette histoire de foreverisme.
Eh oui, c'est Guigui deux fois Guigui, ainsi que Guigui double Guigui puis Guigui. Quand je dis Guigui, vous dites Guigui, ok. Guigui,
Guigui,
comment je m'appelle
Guigui. Guigui,
merci. Bonne nouvelle pour tous les nostalgiques de l'époque où je n'avais fait que deux chroniques dans l'émission, puisqu'aujourd'hui c'est ma troisième chronique. Ouais. Fini les ouin-ouin, c'est le retour de Guigui. Bon. Et le sujet du jour n'est pas la nostalgie, mais bien le foreverisme, ce principe qui consiste donc à tuer justement la nostalgie en l'inscrivant dans le présent. Et vous savez ce que j'en pense? Eh ben c'est ok. Alors, ma grande surprise, je me suis rendu compte en écrivant cette chronique que je pratiquais moi-même depuis bien longtemps le foreverisme. Un foreverisme bien spécifique, puisqu'il s'agit du foreverisme du langage. Et oui, Mathieu, vous l'avez remarqué, je suis in. Mes chroniques sont complètement battes. Et j'aime aller groover en discothèque pour impressionner les nanas sur un bon son qui claque. À la François Feldman, je pouvais pas mieux tomber. Joue pas, passe avec moi, vieux schnock. Ouais. Je vous demanderais d'y aller mollo sur les colibets. Je me permets de rappeler que dans le mot chroniqueur, y a cœur. Vous savez, entre deux crises d'angoisse concernant mes choix de vie, j'ai bien réfléchi à cette histoire de foreverisme et ma conclusion est sans appel. Petit 1, c'est la deuxième fois que quelqu'un chante du François Feldman a cappella sur cette antenne, merci Quentin. Et petit 2, avec le foreverisme, on se rend compte qu'il y a peut-être des gens qu'on a jugés trop vite. Bah oui, parce que comment différencier le ringos du foreveriste? Bah, tous les Pascal avec leur gommette au poignet gravé Pascal, comment savoir s'ils sont ringards ou foreveristes des bracelets? Eh oui. Et les conducteurs de Fiat Multipla, comment savoir s'ils ont mauvais goût ou s'ils sont simplement foreveristes des monospaces? Et les femmes mélomanes qui écoutent encore avec plaisir la Zoubida de Vincent Lagarde, comment savoir s'ils sont sourds ou simplement extrêmement racistes? Oula. Mais dis donc, mais c'est ma chronique ou c'est le 7e signe du calendrier astral qui va juste après la Vierge? Parce que ça balance sec. Bon. D'après mon étude approfondie du sujet, il est en revanche un principe qu'on a tous appliqué collectivement, sans se concerter, en opposition au foreverisme. C'est un principe que j'ai nommé moi-même le plus-jamisme. Alors, rien à voir avec le fait d'avoir en horreur l'animateur Jamy Gourmaud, qui n'a rien demandé, mais plutôt un principe qui consiste à figer les éléments dans le passé sans que personne n'ait jamais l'idée de les remettre au goût du jour. J'en veux pour exemple le deuxième album d'Elysée Moon, pour lequel personne n'a prévu d'édition remasterisée, ou le prénom Cyril, qui n'est plus donné à aucun nourrisson. Oh, il est mignon, comment il s'appelle ? Cyril. Bon. Ou encore la mode, qui est assondie à un éternel recommencement, sauf pour les bacs d'orteils, car de toute façon, personne n'a jamais porté cette merde. Voilà, je pense qu'on peut le dire, je suis un fin analyste, un orateur hors pair, une petite brique qu'on a envie de croquer. Mes chroniques sont à un sans faute et à la manière de Captain America, j'ai donc tout pour bénéficier du foreverisme. Dans 20 ans, après la sortie au cinéma du 5e volet de mes aventures, 5 fois Guy, toujours plus de Guy, sortira un best-of de mes jeux de mots, édition de luxe, préfacée par Mathieu qui dira, comme Tony Parker, toutes ces vannes sont à 3 points. Calmos, gros fan. Mes blagues seront étudiées dans les prestigieuses universités et mes chroniques deviendront des dictées. À moi l'éternité. Gigi forever. Alors, la consternation sur ce plateau m'indique que c'est une vision du futur qui ne fait rêver personne à part moi et qui donnerait presque envie de voir naître un autre principe qu'on appellerait probablement le « Oh bah j'espère qu'il se gourre parce que ça fait vraiment pas en visme.
» Encore un mot en isme. C'est bien pour nous ça. Merci Gigi Pop. Et Gigi Pop, j'arrive plus à le dire alors que pourtant on avait répété. Hein. Gigi Pop. On avait prévu de vous revoir bientôt dans Zoom Zoom Zen, mais l'attaque sur le prénom de notre rédacteur en chef remet en cause évidemment votre avenir dans cette émission. En tout cas, je signale que vous êtes tous les jeudis à 21h30 au Petit Palais des Glaces à Paris. N'espérez pas y voir Cyril, mais nous, peut-être. Merci Emmanuel Fantin de nous avoir expliqué le foreverisme. Je rappelle l'ouvrage que vous aviez co-dirigé, Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie, aux presses universitaires du Septentrion. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Zoom Zoom Zen.